Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présentons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Par la nuit, quand elle enveloppe, et par le jour, quand il éclaire, et par ce qu'il a créé mâle et femelle. Certes, oui, vos efforts sont divergents. Puis, quant à celui qui fait largesse, et se comporte en piété et confirme la plus belle des choses, alors nous lui faciliterons la plus grande facilité. Et quant à celui qui est avare et cherche à se mettre au large et traite de mensonge la plus belle des choses, alors nous lui faciliterons la plus grande difficulté. Une fois perdu, cependant, ses richesses ne le mettront pas au large.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Thank you.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 9 Ordi Behesht, 1400 du calendrier iranien, 29 avril 2021. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information, ensuite un commentaire politique. Le ministre iranien des Affaires étrangères appelle à la fin du blocus du Yémen lors d'un entretien avec le négociateur en chef d'Ansar Allah. La République islamique d'Iran critique le double standard de la France après un test de missile balistique. Le ministre iranien des Affaires étrangères au Koweït, dans le cadre d'une tournée régionale, et le secrétaire général du Hezbollah libanais a salué les grands efforts de la jeunesse palestinienne à Quds occupée. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. À la suite des essais de tir effectués par la France sur un missile balistique lancé par un sous-marin, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a critiqué Paris pour sa politique de double standard et ses tentatives discriminatoires de limiter le programme de défense antimissile de l'Iran. Selon des informations publiées par le ministère français des armées, la France a effectué mercredi un test du missile balistique stratégique M51 qui peut transporter 6 à 10 ogives thermonucléaires. Dans un message sur son compte Twitter mercredi, le ministre iranien des Affaires étrangères a réagi à la nouvelle et a écrit « Ce qui est bon pour les uns n'est apparemment pas bon pour les autres ». Faisant écho aux États-Unis et à Israël, la France a précédemment accusé la République islamique d'Iran de poursuivre des activités liées aux missiles balistiques conçus pour porter des armes nucléaires et a déclaré que Téhéran devrait immédiatement cesser toutes ses initiatives. Téhéran a rejeté à plusieurs reprises cette affirmation sans fondement, affirmant que l'Iran n'exerce que son droit en tant que pays souverain de poursuivre un programme militaire conventionnel qui sert des objectifs de défense. Le ministère iranien des Affaires étrangères a regretté que les pays développés monopolisent les technologies de l'information et des communications pour falsifier les réalités du monde auprès de la communauté international. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a fait ses remarques lors de la 43e réunion du comité d'information de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'est tenue par vidéoconférence. Il a déclaré que les pays développés utilisaient le monopole pour déformer et fabriquer des réalités concernant le monde en développement, exhortant l'Organisation des Nations Unies à intervenir pour empêcher les abus. Il a donc appelé l'Agence des communications mondiales de l'Organisation des Nations Unies à agir pour sensibiliser la communauté internationale dans ce domaine. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, s'est rendu au Koweït pour y rencontrer les hautes autorités koweïtiennes au cours de la visite et discutera des questions bilatérales ainsi que d'importantes évolutions régionales et internationales. En tournée dans les pays arabes du Golfe Persique, le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, s'est rendu également au Qatar, en Irak, et au Sultanat d'Oman et a discuté des questions bilatérales et régionales avec les hautes autorités de ces pays. Le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyed Hassan Nasrallah, salue les grands efforts de la jeunesse palestinienne à Quds occupée. Le secrétaire général du mouvement de la résistance libanaise, Hezbollah, a salué les jeunes Palestiniens à Quds occupée pour leur courage et leurs efforts face à l'ennemi sioniste. Seyed Hassan Nasrallah a félicité la jeunesse palestinienne d'avoir eu le courage d'affronter l'ennemi israélien armé jusqu'aux dents. Le secrétaire général du Hezbollah libanais a noté que les Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza ont lancé un nouveau mouvement pour changer les spéculations sur le terrain. Israël a renforcé les restrictions contre les fidèles palestiniens à Quds orientale occupée depuis le début du mois sacré de Ramadan. Dans un nouveau geste répressif, les forces israéliennes ont attaqué le rang des manifestants contre la colonisation et la judaïsation de la ville sainte de Quds. Des dizaines de Palestiniens ont été blessés lors des affrontements. La Russie fustige les membres du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pour avoir rejeté la prochaine élection présidentielle en Syrie avant même qu'elle n'ait lieu. Réagissant à cette position occidentale, l'ambassadeur de Russie auprès de l'Organisation des Nations Unies, Vassili Nebenzia, déplore une opposition à l'idée même du scrutin en Syrie. Le diplomate russe a jugé désolant de voir que certains pays sont hostiles à l'idée même de l'élection à venir et se sont déjà hâtés de la déclarer illégitime. Le représentant de la Russie a ajouté que Moscou est intervenu dans le conflit syrien sur la demande du président syrien Bachar al-Assad, comme l'autorise le droit international. Il a déploré le fond médiatique négatif autour du futur scrutin. Il a aussi estimé que cette attitude allait à l'encontre des travaux du comité constitutionnel syrien chargé de rédiger une nouvelle constitution et réunissant pouvoir et opposition. La réaction intervient après que les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne ont rejeté d'avance le résultat de l'élection présidentielle syrienne prévue pour le 26 mai. La présidentielle syrienne se tiendra le 26 mai sous l'œil d'observateurs russes, chinois, iraniens, cubains ou encore algériens. S'exprimant devant le Congrès des États-Unis à l'occasion des 100 premiers jours de son arrivée à la Maison-Blanche, le président des États-Unis, Joe Biden, a mis en garde la Chine contre ses pratiques commerciales, selon ses mots, déplorables lors de sa première allocution au Congrès. Joe Biden a déclaré avoir dit à son homologue chinois, Xi Jinping, que les États-Unis maintiendraient une forte présence militaire dans l'Indo-Pacifique, comme ils le font avec l'OTAN en Europe. Le président américain a déclaré qu'il ne cherchait pas à aggraver les relations avec Pékin et a qualifié la diplomatie de meilleur moyen de régler les différends. En ce qui concerne la Russie, Joe Biden a déclaré qu'il ne cherchait pas non plus à entrer en conflit avec Moscou, mais qu'il répondrait à toute provocation de la part des Russes. Au cours de ces trois premiers mois de son entrée en fonction, Joe Biden a imposé des sanctions contre la Russie. Biden a également proposé un sommet dans un pays tiers avec le président russe Vladimir Poutine pour stabiliser les relations bilatérales. Le ministre iranien des Affaires étrangères appelle à la fin du blocus du Yémen lors d'un entretien avec le négociateur en chef du mouvement yéménite Ansar Allah. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a exprimé ses regrets face aux conditions auxquelles le Yémen est confronté à la suite de la guerre de 6 ans imposé au pays, appelant à la fin de l'agression militaire menée par l'Arabie saoudite et à la levée du siège de la nation appauvrie du Yémen. Mohammad Javad Zarif a fait ses remarques mercredi lors d'une réunion avec le négociateur en chef du mouvement populaire Ansar Allah du Yémen, Mohammad Abdesalam, dans la capitale omanaise, Mascate. Le chef de la diplomatie iranienne a réaffirmé le soutien de la République islamique d'Iran à une solution politique comme seule issue au conflit en cours au Yémen, à un cessez-le-feu et à des pourparlers entre les groupes yéménites. Au cours de la réunion, le négociateur en chef du mouvement populaire Ansar Allah du Yémen, Mohammad Abdesalam, a également salué le soutien de la République islamique d'Iran au peuple yéménite et a informé le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, des dernières évolutions dans le pays. Soutenu par ses alliés, l'Arabie saoudite a envahi le Yémen en mars 2015 pour rétablir un régime soutenu par Riyad dans le pays. Depuis lors, plusieurs tentatives de pourparlers de paix n'ont pas réussi à mettre fin au conflit. 6 ans après le début de la guerre que l'Arabie saoudite a déclenchée contre le peuple yéménite, plus de la moitié des 30 millions d'habitants du Yémen sont désormais confrontés à différents niveaux d'insécurité alimentaire, 3 millions d'enfants souffrant de malnutrition aiguë. Plus tôt ce mois-ci, le porte-parole du mouvement Ansar Allah du Yémen a déclaré que tout appel à la fin de l'agression menée depuis des années par les Saoudiens n'était pas sincère tant que le blocus paralysant des Saoudiens contre le pays persisterait. Nous ne considérons aucun appel à la paix comme sérieux, à moins qu'il n'inclue la levée complète du blocus. Cependant, nous n'avons pas encore remarqué de sérieux pour arrêter l'agression, a déclaré le négociateur en chef du mouvement populaire Ansar Allah du Yémen, Mohammad Abdesalam, dans un tweet du 16 avril. Les appels à la paix lancés par certaines organisations internationales révèlent une perception sélective de la paix en l'accordant au pays d'agression et en l'empêchant du Yémen, alors que la paix est soit pour tous, soit il n'y a pas de paix, a-t-il ajouté. Plus de 100 000 vies ont été perdues depuis que l'Arabie saoudite et ses alliés ont lancé la guerre au Yémen fin mars 2015.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir en fait sur ces récents développements survenus au Yémen. Si vous avez suivi l'actualité du Yémen, vous vous en êtes rendu compte ces derniers jours, la résistance yéménite composée de l'armée, des comités populaires, c'est-à-dire Ansar Allah, a remporté des victoires significatives. Surtout dans cette région stratégique de Ma'arib, de vifs affrontements se déroulent actuellement Ma'arib dans cette région, et la résistance des Yémanides se trouve désormais à 3 kilomètres de cette ville stratégique qui est en fait le dernier bastion des mercenaires de l'Arabie Saoudite, le régime agresseur. Alors, la résistance yéménite, en dépit, si vous voulez, de tous ces bombardements massifs, d'ailleurs, de l'aviation saoudienne, a remporté en fait ses victoires importantes et spectaculaires dans cette région stratégique et névralgique de Ma'arib. C'est dans un tel contexte que le prince héritier des Saoudiens, Mohammed bin Salman, a appelé, si vous voulez, Sana'a à s'asseoir à la table de négociation. Réaction du côté de Sana'a du gouvernement du Salut national était immédiate. Un responsable, si vous voulez, de Sana'a, réagissant à ces déclarations du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, a dit que voilà, aucun pays n'accepte l'occupation de son territoire. Allusion directe en fait à cette occupation d'une partie du territoire yéménite par le régime saoudien. On va vous en parler avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas, capitale syrienne, un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître Arnaud Develet. Maître Develet, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous. Bonjour à l'invité et toujours un plaisir d'être avec vous.
C'est un plaisir partagé. L'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, c'est un géopoliticien belge spécialisé des questions internationales qui est en ligne avec moi pour cette émission depuis Bruxelles. Il s'agit de M. Luc Michel. M. Luc Michel, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous. C'est toujours un plaisir. Et bonjour surtout à M. Develet, à Maître Develet, que j'ai toujours plaisir de retrouver.
Merci beaucoup, Luc Michel. Luc Michel, je viens de lancer le sujet, ce qui se passe actuellement sur le terrain surtout militaire au Yémen, également sur le plan politique. La résistance yéménite est en position de force et en position de faiblesse. Mohammed bin Salman, prince héritier saoudien, appelle, si vous voulez, au dialogue, et ce dans un tel contexte que la résistance yéménite sur le terrain, je viens de l'expliquer tout à l'heure, est en train de remporter, si vous voulez, des victoires significatives et est sur le point, si vous voulez, de reprendre le contrôle de cette ville stratégique de Ma'arib.
Écoutez, Ben Salman s'est lui-même plongé dans un pied stratégique. Il est confronté d'une part à la montée en puissance des forces patriotiques yéménites qui ne sont pas uniquement d'ailleurs les Houthis chiites, mais qui comprennent également les éléments sunnites proches de l'ancien président Saleh. La seconde part, c'est que Ben Salman a perdu la confiance de Washington, en grande partie d'ailleurs à cause de l'affaire Khashoggi. Il faut savoir que Khashoggi était proche des réseaux de George Soros et de Kamala Harris. Et enfin, il y a une dernière donnée qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'au moment où les Saoudiens s'effondraient, il y a un partenaire de l'Arabie Saoudite qui sont les Émiratis, qui ont surgi de la guerre du Yémen comme une grande puissance maritime et qui ont leur propre agenda. Quel est l'agenda des Émiratis? C'est de favoriser une sécession du Sud-Yémen, un peu sur les bases de l'ancienne République du Sud-Yémen des années 60, et en liaison avec une action qui est celle d'acheter des ports dans la Somalie, de contrôler la région de façon maritime, en accord avec les Français. Il y a un axe Paris-Dubaï dans le domaine maritime. Tout cela est très mauvais pour Ben Salman, évidemment, qui a perdu pied.
Et Luc Michel, la déception est tellement grande, si vous voulez, du côté non seulement de Riyad, mais également du côté en fait de et ses alliés. Pour n'en donner qu'un exemple, il y avait cette déclaration de ce membre du Conseil de transition du Sud, qui se trouve d'ailleurs dans le sud du Yémen et qui est considéré comme allié des Émirats arabes unis et également du régime saoudien, a dit que voilà, même si l'Arabie saoudite fait 100 ans de guerre avec Ansar Allah, avec la résistance yéménite, elle ne parviendra à, si vous voulez, remporter aucune victoire.
Écoutez, il faut comprendre que la politique de l'axe de la résistance ce Hezbollah yéménite qui est en Sahara, comme en Irak d'ailleurs, les Hach al-Salami, c'est une résistance pugnace qui est connue pour ne jamais lâcher le terrain. Au Liban, en Irak ou au Yémen, il n'est pas question pour la résistance de lâcher prise, surtout lorsqu'elle a le vent en poupe. Vouloir mener des grands jeux géopolitiques, des jeux d'échecs, ou des guerres éclairs géopolitiques, c'est très bien, mais quand on est confronté sur le terrain à la réalité d'une résistance qui s'accroche et qui rencontre des succès, tout cela se révèle vain et éphémère. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les Saoudiens voudraient maintenant, après avoir plongé le pays dans une crise humanitaire sans précédent et dans le chaos, voudraient s'asseoir à la table des négociations. C'est un échec qui n'est pas un échec d'ailleurs depuis quelques mois. C'est un échec qui est celui de 10 ans de géopolitique pro-occidentale au Yémen. Il faut se rappeler quand même que le Yémen, tout a commencé par une révolution de couleur contre le président Saleh, qui a été transformée, un peu comme ce qui s'est passé dans d'autres pays, en guerre civile et puis en guerre impérialiste avec l'arrivée des Saoudiens. Et on est maintenant 8 ans après, et 8 ans après, tous ces plans occidentaux d'établir un régime pro-occidental face au Yémen se sont écroulés. Parallèlement à cela, il y a la montée de l'Iran comme une grande puissance régionale, et cette montée de l'Iran avec ses alliés russes et chinois, évidemment, elle constitue un contrepoids à ce qui a 10 ans était la toute puissance occidentale dans la région.
Merci beaucoup, Ted Arnaud de Volley. Est-ce que vous aussi vous estimez, tout comme Luc Michel, que voilà, c'est un échec de celui, si vous voulez, du régime saoudien, bien sûr, et également de celui de ces think tanks occidentaux qui avaient en fait pour mission, qui s'était fixé comme objectif, d'installer un régime pro-occidental à Sanaa, au Yémen.
Ah ben non seulement c'est un revers, mais c'est un bouleversement régional d'une ampleur dont on n'avait pas encore idée il y a encore un an, je dirais. Cette bataille fondamentale, cette conquête de Marib est un game changer, comme on dit. Cela va permettre au Front national du salut de non seulement consolider ses gains, établir sa suprématie sur 2/3 de la population yéménite et aussi d'avoir accès, bien sûr, à toutes les ressources énergétiques, en tout cas l'essentiel, ce qui leur permettrait après de confronter directement la réaction directe à ce développement, si je puis dire, fondamental, qui est l'arrivée soudaine des Britanniques et des Américains dans la province est de Maha, et qui laisse entendre que les Occidentaux et leurs supplétifs régionaux sont dans une panique totale. J'ajouterais que, au même titre qu'Alep avait été un petit peu perçu comme l'équivalent de Stalingrad en Syrie, la libération de la ville et de la province de Marib est le Stalingrad yéménite, dans le sens où le front du salut va pouvoir, renverser la vapeur complètement de manière définitive sur un plan stratégique et s'atteler maintenant à consolider le pays et à libérer toutes les autres provinces, parce que je pense que la libération de Marib n'est que le début et qu'en aucun cas le peuple yéménite ne pourra être en mesure de considérer l'avenir avec sérénité que jusqu'à ce que toutes les provinces du pays soient libérées. On s'aperçoit maintenant aussi, par le biais des déclarations récentes du prince héritier saoudien, que ce dernier est maintenant non seulement dans un processus d'essayer de sauver la face auprès des Américains, de la nouvelle administration américaine en tout cas, mais qu'au travers de ces tentatives de médiation, au travers des autorités irakiennes pour essayer de se rapprocher avec l'Iran, il constate de manière objective maintenant, tant est qu'il ait été conseillé de manière compétente dans la matière, que la partie est perdue et que c'est maintenant son autorité au sein même du royaume qui est en jeu, parce qu'il a tablé énormément sur ce qu'il considérait lui comme étant une promenade de santé lorsqu'il a déclaré l'agression sur le Yémen, et qu'une campagne, une promenade de santé de 15 jours, maintenant, il assiste 6 ans plus tard à l'effondrement total de ses visées stratégiques dans la région. Donc c'est tout un jeu de domino maintenant qui se met en branle et qui laisse présager certainement d'autres développements à la suite de cette opération des comités de mobilisation populaire et de Rassemblement.
Maître de Volley, vous venez de dire tout à l'heure que voilà, cette bataille à Ma'arib est décisive. Vous dites que voilà, de la conquête de Ma'arib ne sera qu'un début. Vous voulez dire par là, Maître de Volley, qu'une fois Ma'arib libérée, la résistance yéménite, armée des comités populaires, peuple yéménite, va se tourner, si vous voulez, de d'autres autres objectifs, d'autres régions, très particulièrement le sud, autrement dit, de son objectif est en fait de libérer l'ensemble du territoire yéménite de la présence étrangère, que ce soit saoudienne, émiratide, israélienne, américaine et autres.
Oui, tout à fait. De toute façon, je pense que le Front du Salut a tout à fait internalisé le fait que tant qu'ils n'auront pas libéré l'entièreté du pays, le danger persistera, qu'avec le temps, ils se consolident et essayent perturber et déstabiliser la souveraineté du peuple yéménite au sens large. Dans ce contexte-là, il ne peut être éventualisé que la libération de Ma'arib soit en soi une fin en soi et la fin du combat pour l'indépendance. Donc effectivement, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit l'acharnement, le désespoir avec lequel la coalition saoudo-émirati et ses alliés occidentaux et israéliens ont lancé toutes les forces dans la bataille. On a même vu un réalignement entre Riyad et Ankara. Donc entre la mouvance wahhabiste, salafiste et les frères musulmans qui ont fait front commun dans le contexte de cette bataille autrement cruciale. Et donc les masques tombent. En fait, on s'aperçoit plus que jamais qu'il s'agit maintenant d'un processus avec des répercussions régionales. Vous le mentionniez en ouverture. Les Émiratis et les Français se sont rapprochés avec l'idée d'essayer de maintenir une maîtrise sur les flots, les courants maritimes, hein, sur le transport maritime dans la région. Donc ça va bien au-delà du Yémen. Il s'agit avant tout de pour la résistance et ses alliés de se débarrasser de cette interférence constante dans les affaires de la région. Et le contrôle des flots maritimes est une extension directe de qui contrôlera le Yémen.
Luc et Michel, vous venez de qualifier tout à l'heure en fait d'Ansar Allah du Yémen, du Hezbollah libanais, de la résistance libanaise. Vous avez également fait allusion à l'axe de la résistance composé également de la résistance libanaise, le Hezbollah libanais, également de Hashd al-Shaabi en Irak. Mais, monsieur Michel, quelle sera, d'après vous, cette victoire de la résistance yéménite, celle du peuple yéménite, pour être précis, quelle en sera, si vous voulez, la conséquence, l'impact à l'échelle régionale, s'il vous plaît?
Écoutez, l'impact n'est pas seulement à l'échelle régionale. Il faut avoir une lecture géopolitique de la question du Yémen. Ce qui se passe actuellement au Yémen, c'est une bataille pour la paix. Et dans toutes les confrontations actuellement à l'échelle internationale, il y a d'un côté le bloc américain occidental qui s'est structuré sur des puissances maritimes, c'est-à-dire les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, qui est une grande puissance maritime aujourd'hui, qui a le deuxième domaine maritime mondial de plus de 10 000 kilomètres. Il y a les Émiratis, bien entendu, qui sont le cœur avec Israël de l'OTAN du Proche-Orient. Et il y a les alliés japonais et australiens. Face à elles, il y a les puissances continentales, Moscou, Pékin et maintenant l'Iran. Il faut souligner que Moscou constitue un axe militaire avec l'axe de la résistance et l'Iran. Et tous ces gens se disputent les voies maritimes. En particulier dans la région, il y a un combat pour l'embouchure de la mer Rouge et pour le contrôle du camp de Guinée. C'est le contrôle des voies maritimes qui conduisent vers les États-Unis et vers l'Europe, en particulier le gaz, le pétrole et les matières premières. Jusque-là, les Occidentaux pensaient dominer ces voies maritimes et le rôle des Émiratis et des Français, c'était de dominer l'embouchure de la mer Rouge en dominant la Somalie et à la fois le Yémen. C'est la perte du Yémen, ça va rendre cette stratégie non opérationnelle, en sachant déjà qu'un autre point de force est perdu. Il y a actuellement au Soudan un gouvernement pro-américain qui a remplacé Omar el-Béchi, mais qui doit combattre l'influence russe au sein de l'armée soudanaise. Les Russes s'apprêtent à ouvrir au Soudan une base navale, une seconde en Érythrée, qui va changer la zone stratégique de l'autre côté de la mer Rouge. Et bien entendu, les Russes sont présents dans le golfe de Guinée et ils s'apprêtent d'ailleurs, ils ont eu accès à l'ensemble des ports de la Guinée équatoriale, qui est un État panafricaniste allié à la Russie. Tout cela a donné une nouvelle tension politique. La suprématie maritime des Occidentaux est terminée. Il y a une parité stratégique qui est en train de s'imposer, pas seulement régionalement, militairement, c'est-à-dire dans une zone qui va depuis les frontières du Liban jusqu'au Yémen, mais il y a surtout une parité maritime qui fait que ce qui était le grand objectif des Occidentaux, la suprématie et la domination des voies maritimes, c'est quelque chose qui se termine. Ce qui explique d'ailleurs l'échec saoudien, c'est la perte de contrôle de l'allié soudanais. Vous savez que les Saoudiens, en fait, ne voulaient pas engager leurs troupes au sol. Et depuis des années, ça avait donné lieu à un grand débat sur Omar el-Béchi, d'ailleurs. C'est les Soudanais qui fournissaient à titre de mercenaires les troupes au sol. C'est une époque qui se termine aussi. Et elle explique les défaites militaires des Saoudiens.
Maître de Volette, si j'ai bien suivi Luc Michel, il voulait insister sur ce point que voilà, cette victoire, si vous voulez, son impact dépasse l'échelle régionale, a, si vous voulez, un impact de haut niveau international, géopolitiquement parlant. Autrement dit, cette victoire du peuple yéménite est également celle de l'axe de la résistance, composé de l'Iran, de la Syrie, de la Russie, de, si vous voulez, de la Chine, du Liban, de l'Irak. Est-ce de votre avis également?
Dans le sens où l'axe de la résistance, je l'ai souvent répété, n'est qu'une une composante régionale, en fait, d'un projet qui est le projet eurasiatique. Alors après, appelez-le comme vous voulez, la route, les nouvelles routes de la soie, bon, que sais-je encore, mais en tout cas, cela participe à un réalignement du monde sous l'égide du concept de multipolarité, et qui laisse entendre que le temps des Occidentaux et de leur impérialisme économique et politique est terminé, révolu. Ce développement à Marib et au Yémen, au sens plus large, n'est que le dernier sous-bosseau de ce changement de paradigme. C'est ce qui explique des alliances complètement contre nature qu'on a pu voir récemment au travers de ces soi-disant accords à Abraham, qui n'étaient en fait que des tentatives un peu désespérées d'acheter à court terme, essayer de d'antiquer, si je puis dire, l'élan et la dynamique que l'axe de la résistance et au-delà les puissances radiatiques s'efforcent de mettre en place. Donc, effectivement, je suis tout à fait d'accord, et dans le sens où il y a toujours une cohérence dans ces nouvelles forces géopolitiques, quant à ce qu'elles souhaitent accomplir concernant leur émancipation de l'unilatéralisme occidental, on s'aperçoit maintenant qu'avec le temps, la tendance s'accélère, s'amplifie, les synergies sont de plus en plus renforcées, et que même les pays, comme le soulignait Luc Michel, tels que le Soudan ou l'Érythrée, qui auraient pu être perçus comme des points d'endiguement, dans la façon dont les Occidentaux le perçoivent, sont eux-mêmes traversés par des divisions au sein même de leur appareil d'État ou leurs forces armées, qui laissent entendre qu'avec le temps, ces pays vont finir par s'aligner avec cette nouvelle réalité géopolitique.
Et la tendance d'Arnaud de Vollée change surtout avec cette prise de conscience au niveau des populations également.
Écoutez, oui, de toute façon, les populations ont toujours eu le bon sens de la rue, on dit le bon sens populaire. Ce sont surtout les élites corrompues, entre guillemets, et les médias qu'ils utilisent qui essayent d'imposer une narrative à contre-nature de la perception de la réalité par les gens dans la rue. Reste à espérer maintenant que ce phénomène va se développer et s'amplifier en Occident, parce que c'est maintenant en fait la suite logique de tout cela. C'est que le regain, le reflux auquel nous avons assisté ces dernières années qui s'amplifie de plus en plus dans cette région autrement stratégique qu'est le Moyen-Orient élargi, va maintenant revenir comme un boomerang dans les capitales occidentales. Et d'ailleurs, pourquoi on voit maintenant les gouvernements ou plutôt les organes de gouvernance occidentale se cabrer, se braquer contre leur propre population, parce que ces derniers réalisent qu'ils ont été en fait éteints d'en face, qu'on leur a menti depuis des décennies.
Merci.
Et que les valeurs que leur pays, leur gouvernement espérait exporter sont en fait des valeurs de mortifères.
Maître Arnaud de Vollée, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas. Mes vifs remerciements vont également à vous, Luc Michel, qui est d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Bruxelles. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.
Pratique des courants takfiristes. La défense russe alerte de nouveau sur le risque d'une provocation à l'arme chimique à Idlib en Syrie, alors que les droits de la Syrie ont été suspendus par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. La défense russe informe sur le risque que les terroristes de Hayat Tahrir al-Sham ne permettent une provocation et indique que des substances toxiques sont notamment acheminées vers Jisr al-Shogour. Les terroristes préparent des provocations dans la zone de désescalade d'Idlib, pour ensuite rejeter la responsabilité sur les troupes gouvernementales et accuser ces dernières de recourir aux armes chimiques, a déclaré ce vendredi Alexandre Karpov, chef adjoint du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie. sur fond d'adoption par l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques d'une décision infondée sur la suspension des droits de la Syrie au sein de cette organisation, des informations affluent sur la préparation par Hayat Tahrir al-Sham de provocations, a-t-il déclaré lors d'un point de presse. Il a ajouté que les extrémistes acheminaient des substances toxiques du camp de Tal Tuna aux alentours d'Idlib dans les zones de Jisr al-Shughour et de Badama. Il fait en outre état de l'activation des casques blancs près de l'agglomération de Marjal Ajan. Les terroristes envisagent d'utiliser les informations sur les victimes de leurs provocations pour discréditer le gouvernement syrien. Le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit appelle les commandants des bandes armées illicites à renoncer aux provocations armées, a annoncé le contre-amiral russe. Ce n'est pas la première fois que les ministères russes, que ce soit les affaires étrangères ou de la défense, préviennent du risque de provocation aux armes chimiques. Les États membres de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques ont voté mercredi dernier la suspension des droits de vote de la Syrie pour son utilisation présumée d'armes chimiques. Damas, pour rappel, nie tout recours aux armes chimiques et insiste sur le fait que tous ces arsenaux ont été transportés hors du pays sous contrôle de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. La Syrie a évacué un total de 1300 tonnes d'agents chimiques. Le transfert de ces armes et leur destruction sont le fruit de l'adhésion de Damas à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques en octobre 2013, dans le cadre d'un accord russo-américain ayant permis d'éviter une intervention militaire américaine en Syrie. Des missions de drones kamikazes russes Lancet ont été filmées en Syrie, dans la région où opère le groupe terroriste Hayat Tahrir al-Sham. Une vidéo montrant des drones russes Lancet en train d'attaquer les terroristes en Syrie a été diffusée ce samedi 17 avril par la chaîne de télévision Russia 1. Un Lancet chargé de 3 kg d'explosifs a été utilisé dans la région d'Idlib pour éliminer une camionnette d'un commandant des terroristes du groupe Hayat Tahrir al-Sham. La camionnette a été repérée par un drone de reconnaissance qui escortait le Lancet. Les images de la caméra installée à bord du drone kamikaze montre la destruction de la cible. Un autre fragment de la vidéo montre un Lancet anéantir un poste de tir des terroristes, note la chaîne. Début avril, une source au sein de l'industrie militaire russe a confié à l'agence Sputnik que les militaires russes avaient testé une nouvelle technologie des drones de combat en matière de ciblage. Ce système a permis aux drones russes de frapper avec précision des cibles terroristes. Une vingtaine de véhicules de l'État islamique en Afrique de l'Ouest a attaqué un convoi militaire dans la périphérie de Maïdagouri, capitale de l'État du Borno. Au moins 31 militaires ont été tués dimanche 25 avril sur une route du nord-est du Nigeria où des takfiristes liés au groupe Daesh ont tendu une embuscade à leur convoi, ont indiqué lundi matin de responsables militaires ayant requis l'anonymat. Une vingtaine de véhicules des combattants de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, ont attaqué dimanche vers midi ce convoi militaire dans la localité de Maynok, située dans la périphérie de Maïdagouri, capitale de l'État du Borno, épicentre de l'insurrection takfiriste dans le nord-est du pays qui dure depuis plus de 10 ans. Dans l'embuscade des terroristes, nous avons perdu 31 soldats, dont leur commandant, qui était un lieutenant-colonel, a déclaré un officier de l'armée sous le couvert de l'anonymat. Le convoi acheminait des armes vers Maïdagouri lorsqu'il a été attaqué, a déclaré une deuxième source militaire, qui a donné un bilan similaire. Les terroristes sont arrivés dans plusieurs camions, dont 4 véhicules blindés, et ont engagé le convoi dans une bataille féroce, a déclaré le second officier. Les takfiristes ont fait pleuvoir des roquettes sur le convoi et ont submergé les soldats, entraînant des pertes colossales, a-t-il affirmé. Nous avons perdu beaucoup d'hommes de manière horrible. Près de 36 000 morts depuis 2009. Les assaillants se sont emparés d'armes et de 2 blindés lors de l'attaque avant d'envahir une base militaire située à l'extérieur de Maynok, ont précisé les 2 sources. Ils l'ont partiellement brûlé ainsi que plusieurs véhicules militaires. Dans un communiqué, le porte-parole de l'armée nigériane a donné lundi soir un bilan bien inférieur, assurant que 7 militaires, dont un officier, avaient été tués et 5 autres blessés. Les soldats ont été attaqués de plusieurs directions par les takfiristes sur des véhicules armés ou à pied, selon le porte-parole. Les combats ont duré plusieurs heures et des avions et un hélicoptère de combat ont été engagés. À l'heure actuelle, nos troupes contrôlent totalement Maynok, a assuré le porte-parole de l'armée nigériane. Par le passé, Maynok a été plusieurs fois prise pour cible par les takfiristes qui avaient notamment déjà envahi sa base militaire. L'ISWAP installe fréquemment de faux postes de contrôle le long de la route reliant Maïdagouri à Damaturu, dans l'état voisin de Yob, sur laquelle se trouve Maynok, tuant ou enlevant des voyageurs. Depuis le début de la rébellion du groupe Boko Haram en 2009, dans le nord-est du Nigeria, le conflit a fait près de 36 000 morts et 2 millions de déplacés. En 2016, le groupe s'est scindé avec d'un côté la faction historique et de l'autre l'ISWAP, reconnue par l'organisation Daesh. Dans l'état voisin de Yob, quelques 2000 personnes ont fui ce week-end la ville de Geydam, attaquée vendredi soir par des combattants de l'ISWAP qui se trouvaient toujours dans la localité lundi selon des responsables locaux et des habitants. L'armée avait affirmé samedi dans un communiqué avoir repoussé les takfiristes. Dans les combats qui ont opposé l'armée à ces takfiristes vendredi, au moins 11 civils ont été tués, ont affirmé à l'AFP des habitants. Les habitants ont commencé à fuir après l'assassinat, selon eux, de 2 chrétiens et de 2 professeurs musulmans. Tout le monde est en train de fuir, car les insurgés ont commencé à tuer ceux qui sont chrétiens et ceux qui ont une éducation occidentale, a affirmé un habitant. Ils sont arrivés chez eux et les ont égorgés, a également affirmé un autre habitant de la région.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.